France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. Quelques jours après le premier sommet Union européenne-Asie centrale à Samarcande en Ouzbékistan, une série sur les cinq républiques de cette région à l'heure des choix. Nous avons parlé jusqu'à présent de leur volonté, somme toute très prudente, de sortir du giron de la Russie et surtout diversifier les partenariats. Aujourd'hui, vers la fin de ce qui restait une exception démocratique, le Kyrgyzstan.
Le Kyrgyzstan est toujours un pays libre et démocratique, je crois. Et nos enfants, notre avenir, sont tombés entre les mains des mauvaises personnes. Il est très insultant et douloureux que nous soyons inquiets de venir ici, sur cette place, de nous rassembler pour demander justice.
Je veux que vous, mes chers compatriotes, soyez heureux. Nous ne pouvons plus laisser les clans corrompus et oligarchiques décider de notre destin. Si bien pour cela que je propose l'idée d'un président fort.
Nous étions rassemblés sur cette place pour dire « Eh, ça ne va pas ? Les jeunes ne sont pas d'accord avec le fait que vous achetiez des votes. » Et maintenant, voilà qu'il accède au pouvoir grâce à ses appuis dans l'administration. Et voilà que ses amis occupent les postes clés du pays. Cette élection présidentielle n'est pas juste.
Exception, nom féminin, dites qu'elle confirme la règle, ne vous risquez pas à expliquer comment, écrivait Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. De fait, on dit du Kyrgyzstan qu'il est depuis plus de 30 ans maintenant une exception démocratique en Asie centrale. Lui qui laisse une opposition politique s'exprimer, des journalistes enquêter, des citoyens manifester. Alors certes, tous les chefs d'État qui ont présidé le pays depuis l'indépendance ont essayé de resserrer la vis. À chaque fois, ils ont été rappelés à l'ordre par une société civile vigoureuse, improvisant volontiers des révolutions et appliquant la science des fortifications dans sa version la plus informe et disparate mais néanmoins terriblement efficace, la barricade. Depuis 4 ans en revanche, et suite à la gestion hasardeuse de la pandémie de Covid par son prédécesseur, le président actuel Sadir Japarov semble avoir les coudées plus franches pour mener ses réformes à tendance autoritaire dès son élection. Il a réformé la Constitution, rétablissant un régime présidentiel et s'inspirant aussi de la Russie, avec par exemple une loi sur les agents de l'étranger. Quelle exception était le Kyrgyzstan par rapport à ses voisins? Quelles sont les dynamiques internes qui travaillent les sociétés d'Asie centrale et leur rapport aux politiques? Quels sont ces mouvements de contestation qui ont éclaté ces dernières années? Nous en parlons avec vous ce matin, Olivier Ferrando. Bonjour.
Bonjour Julie Gacon.
Et bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques de l'Université catholique de Lyon, spécialiste des sociétés en Asie centrale, auteur d'un livre paru récemment aux éditions Petra, La question minoritaire en Asie centrale, construction nationale, mobilisation ethnique et stratégie identitaire dans la vallée du Ferghana. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la vallée du Ferghana? Où est-ce qu'elle est, cette vallée?
C'est un territoire très peuplé, en fait. C'est là où il y a la plus grande concentration de population et qui est partagée, en fait, et qui fait l'objet, qui a fait l'objet pendant longtemps, en fait, de contentieux frontaliers entre trois pays, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan.
Et justement, Olivier Ferrando, en préambule de cette discussion, et même si le lien peut paraître à première vue éloigné de notre sujet du jour sur la fermeture politique des pays d'Asie centrale, en particulier du Kyrgyzstan, je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé récemment entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, donc son voisin du sud. Pour les situer, ils ont tous les deux une frontière à l'est sur la Chine, mais leur frontière entre eux a fait l'objet récemment d'un accord. De quoi s'agit-il ?
Alors c'est un accord frontalier qui a en effet été signé au mois de mars, donc le mois dernier, et qui permet de mettre un terme à tous ces litiges frontaliers, ces contentieux qu'il existait depuis l'indépendance des cinq pays d'Asie centrale, puisque le tracé des frontières à l'époque n'avait pas respecté quoi que ce soit en termes de répartition de la population, et surtout c'était des divisions administratives internes. Et donc il fallait pouvoir délimiter ces frontières, et cela a été fait progressivement, simplement Cependant, il restait deux frontières qui n'étaient pas encore délimitées lorsque le président actuel est arrivé au pouvoir, la frontière avec l'Ouzbékistan et la frontière avec le Tadjikistan, qui représentaient plus de la moitié, en fait, des frontières du pays, et donc qui étaient un véritable héritage laissé par les régimes précédents qui n'étaient pas arrivés à faire cet accord. Et donc, en signant l'accord au mois de mars, donc le mois dernier, ça permet de mettre un terme à ces litiges, et ça permet aussi de mettre un terme à toutes les tensions frontalières qu'il y avait, puisqu'il y a eu des conflits, même armés, entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan.
En 2021, 55 morts. En septembre 2022, 144 morts. Donc, en effet, toujours des conflits armés dans une zone qui, aidez-nous à nous la représenter, Olivier Ferrando, ça ressemble à quoi? Et sur ces 1000 km de frontière à peu près entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, quelle zone a été concernée? Quelle superficie?
Alors, en effet, la géographie est très importante puisque le Kyrgyzstan est un pays de montagne, dont les voisins sont souvent aussi des pays de montagne. Le Tadjikistan est un pays très montagneux. L'ouest de la Chine est également très montagneux. Donc, il y a des frontières qui ne posent pas problème. Ce sont, en tout cas pour les populations, ce sont celles où il n'y a pas de population, simplement des hautes montagnes, où là, il s'agit plutôt de questions de ressources en eau et autres qu'il faudrait pouvoir respecter. Et il y a eu des tensions avec la Chine sur le tracé de la frontière passant par des hautes montagnes à plus de 6000 mètres d'altitude. Dans le cas donc de la vallée du Fergana, puisque c'est là que se concentre en fait l'essentiel des problèmes, c'est qu'on a une population qui est très concentrée, donc il y a une pression très forte sur les ressources, notamment agricoles. Donc les terres agricoles qui sont de part et d'autre de la frontière sont très prisées, les ressources en eau également, et donc forcément le tracé est impactant pour les populations. Mais bien évidemment, le fait d'avoir un tracé permet d'envisager un avenir plus prospère, puisque les populations au moins savent à quoi s'en tenir, alors qu'auparavant, il y avait différentes options possibles.
Vous expliquez dans vos travaux que si ces territoires étaient contestés jusqu'à présent, c'est que les deux pays s'appuyaient sur des sources cartographiques qui étaient inconciliables. Le Tadjikistan, notamment, se réfère à des cartes des années 20, et on imagine un peu en mode Dersu Uzala, le film de Kurosawa, tous les géomètres qui viennent et qui essayent de comprendre et de voir comment peut se dessiner la frontière, et ça a pris des années, avec des tentatives de médiation extérieure du type la Russie, et ça n'a pas marché. Comment expliquer, avec le poids que pèse encore la Russie dans la région, que ces tentatives de médiation ont été infructueuses?
En réalité, ce problème a été vraiment laissé aux pays lorsqu'ils sont devenus indépendants. En gros, en 91, ils se sont retrouvés avec des frontières héritées, un petit peu comme en 1960, les frontières en Afrique ou dans les pays qui ont connu une colonisation et donc qui n'ont pas participé au tracé des frontières. Et donc ces pays étaient un peu seuls. Et très souvent, les négociations étaient menées en bilatéral, avec la Chine, avec le Kazakhstan, ça a été mené en bilatéral, sans aucune intervention d'un tiers. Le problème avec l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, et on y reviendra probablement, c'était les régimes en place, qui n'étaient pas capables de s'entendre, et notamment l'Ouzbékistan, qui a beaucoup freiné dans cette régulation des frontières. Et donc, je dirais que le moment où la Russie a tenté d'intervenir, c'était après le conflit le plus violent, celui qui est arrivé donc en septembre 2022, où il y a eu des dizaines de milliers de personnes déplacées, etc. Mais ça a échoué parce que c'était à la manière de Poutine. On convoque les deux présidents à Moscou, on s'assoit et on discute. Ils ne se sont même pas serré la main, les deux présidents, en arrivant à Moscou, puisqu'ils sortaient d'un conflit armé. Et donc, ça a totalement échoué. Et la deuxième option qui était possible, c'était l'organisation du traité de sécurité collective que vous avez évoqué hier, qui est quand même la structure de sécurité de la région, et qui est incapable même d'apporter la stabilité à deux membres de cette organisation. Donc c'était un échec total.
Alors qu'elle est censée leur porter assistance en cas de problème, et là en effet il y a eu des affrontements très violents et meurtriers. Donc c'est vraiment cet accord du 13 mars dernier, un traité piloté par les États eux-mêmes, donc une nouvelle importante à l'échelle des États qui laisse de nouveau circuler personnes et marchandises après 4 ans de frontières fermées. Est-ce qu'il y a eu des consultations cette fois au niveau des électeurs, des populations? Est-ce que les habitants de ces zones frontalières et leurs élus surtout, ont été associés aux discussions?
Pas du tout. En fait, quand j'expliquais que finalement, quand on doit tracer une frontière dans les montagnes, ça concerne personne, donc on le fait finalement entre dirigeants, ou alors des commissions, mais quand il s'agit de tracer des frontières qui vont diviser des villages, qui vont transférer des terres...
Changer des quotidiens...
Bien évidemment, on aurait pu imaginer que la consultation se ferait, notamment du côté kirghize. Et en fait, ça ne s'est pas fait, comme ça ne s'était pas fait 2 ans auparavant, lorsqu'il y a eu la négociation de la frontière avec l'Ouzbékistan. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il y a eu un raidissement du régime kirghize vis-à-vis de la société civile, puisque cette société civile s'était liguée, en fait, contre cette décision, avec des transferts de territoire dont ils n'avaient pas été informés. Et ils ont tous été en prison, en fait, tout simplement. Ouais, donc et donc, il n'y avait plus de possibilité de contester le quoi que ce soit vis-à-vis de la nouvelle signature qui a été faite. Donc, c'est la méthode. Je dirais que les avancées, elles sont quand même plutôt positives et encourageantes, mais la méthode n'est pas forcément la meilleure pour une paix durable.
Et ce traité, néanmoins, a été ratifié par le Parlement du Kirghizistan le 19 mars. Est-ce qu'il y a une forme d'opposition qui aurait tenté de peser dans la question de la délimitation des frontières, un débat politique? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des débats politiques au Parlement du Kirghizistan, qui a longtemps été un régime parlementaire, justement?
Oui, normalement, le Parlement, dans un régime parlementaire, il aurait eu le dernier mot à dire. Là, c'était seulement par consultation. Simplement, voilà, il y a eu une seule personne qui a ouvertement dit son opposition, notamment au transfert d'une partie des terres, et il a été démis, en fait, tout simplement, du Parlement. Et aujourd'hui, il fait l'objet même de poursuites. Donc, c'est compliqué de s'opposer, même en tant que député, qui défendons la position de la population.
Donc, ça fait 4 ans, en fait, que le Parlement n'a plus tellement voix au chapitre quand Sadir Japarov est arrivé au pouvoir en 2021, juste après la pandémie de Covid. Son prédécesseur en a été chassé, il avait mal géré la pandémie. Lui est arrivé et dès qu'il arrive, il parle d'un changement de constitution.
Comme vous le savez, ces 30 dernières années, nous avons de nombreuses fois modifié la constitution. À chaque fois, nous avons copié les constitutions d'autres pays. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons nous-mêmes préparé cette constitution.
Quelle constitution, Olivier Ferrando, était jusque-là copiée par le Kirghizistan, comme le dit Sadir Japarov?
En fait, la question de la constitution, elle est importante parce que c'est celle qui établit le régime. Et donc, lorsque Sadir Japarov arrive au pouvoir en 2020 et donc il établit cette nouvelle constitution et il y réfléchit, il va s'inspirer de la constitution de régime autoritaire. Et jusqu'à présent, on avait une constitution qui était unique en Asie centrale, qui était une constitution de régime parlementariste, en fait, le parlementarisme.
Inspiré, dit-on, de la Ve République française. Alors, je ne sais pas si c'est dans ses moindres détails ou pas.
Alors, pas la parlementariste, c'était la première constitution qui avait été établie en 1991, qui avait établi en fait un régime présidentiel, donc plutôt hyper présidentiel, puisque même en France, le pouvoir du président est très établi. Simplement, en Asie centrale, et c'est toute l'Asie centrale qui a copié en fait, l'Ouzbékistan a été le premier à l'utiliser, qui en fait utilisait ce régime hyper présidentiel, mais sans les contre-pouvoirs, tout simplement, les contre-pouvoirs du Parlement, des médias, une séparation de la justice. Donc voilà, c'est d'abord un régime présidentiel en 91, puis on y reviendra peut-être en 2010, il va y avoir un nouvel événement qui va faire un renversement de régime et pour s'opposer justement à l'arrivée au pouvoir systématique de personnes qui vont s'accaparer le pouvoir et faire des autocraties tout simplement.
Oui, parce qu'à chaque fois, un président arrive au pouvoir, est élu et progressivement s'accapare le pouvoir et referme les libertés publiques et à chaque fois il est renversé. Jusqu'à présent, le Kirghizistan, c'est ça, cette exception dont on parle.
Exactement, c'est-à-dire que le premier président Askar Akayev arrive au pouvoir, il est renversé en 2005, un nouveau président Kurmanbek Bakiyev arrive au pouvoir, il est renversé en 2010. On procède à ce changement de constitution par référendum en 2010 et donc on a un régime parlementaire qui se met en place et là, on observe deux passations de pouvoir pacifiques par des élections avec des coalitions de parlementaires qui se constituent et des présidents qui sont élus pacifiquement et donc on a une succession de deux présidents avec un mandat unique, puisque une des règles aussi c'est mandat unique. Un président qui ne nomme pas le gouvernement, mais c'est le Parlement qui le nomme. Donc on a vraiment une vraie... C'est pas un parlementarisme de façade, c'est un vrai parlementarisme, comme on trouve en Arménie, par exemple, ou dans d'autres pays. Et c'est en 2021 qu'on a à nouveau ce basculement vers l'ancien régime. Mais il faut le comprendre parce que le leader actuel, Japarov, a servi le régime précédent de Bakiyev, donc avant la parlementarisation, donc il était à bonne école.
Est-ce simplement. Que néanmoins le régime présidentiel qu'il remet en place ressemble toujours à celui d'après les indépendances dont vous nous disiez qu'il était inspiré par la constitution de la Ve République, ou est-ce qu'il l'a totalement amendé?
Non, il revient en fait sur ce qui existait avant le régime parlementariste, donc cette logique d'un pouvoir centralisé, personnalisé, et après bien sûr il y a la mise en œuvre de ce régime avec tout un cadre normatif et législatif, et c'est là où on va voir une diffusion qui vient de la Russie, et une influence avec, vous avez mentionné déjà les agents de l'étranger, mais il y a beaucoup de choses à en dire en fait sur la manière dont ça va être mis en œuvre.
Cette réforme constitutionnelle, elle a néanmoins fait l'objet d'un vote, près de 80% de voix en sa faveur avec une participation faible, mais c'est toutes les réformes qui sont en train de passer continuent quand même à faire l'objet de votes, soit de référendums donc par la population, soit de votes par le Parlement.
Alors, le premier président, Askar Akayev, avait utilisé ça presque systématiquement. Il avait fait une série, en fait, de référendums, même pour élargir la liberté de la presse dans la Constitution. Il avait fait un référendum constitutionnel en 96 ou 98.
Lui, c'était un personnage intéressant. D'ailleurs, c'était pas un apparatchik. Juste après les indépendances, il arrive avec son bagage de... Je crois qu'il est mathématicien, c'est ça?
Exactement. Ou... Ouais. Il est, en fait, président de l'Académie des sciences de la République du Kyrgyzstan. Il est rentré dans la vie politique très tardivement. En fait, il a été élu en 1989 député du Soviet suprême de l'Union soviétique. Donc il était à Moscou, il représentait le Kyrgyzstan à Moscou à partir de 89, à un moment où il y a eu des libertés publiques, hein, vous savez, avec Gorbatchev et la perestroïka. Et finalement, il va venir au Kyrgyzstan en 90 et va se faire élire premier président, en fait, là aussi, hein, par les premières élections libres au Kyrgyzstan. Et c'est comme ça qu'il rentre dans la politique. Il n'est pas allé à l'école du Parti communiste, même s'il est bien évidemment affilié au Parti communiste, mais il n'est pas à l'école du Parti communiste, à la différence de tous les autres présidents d'Asie centrale. Ce qui va lui permettre, en fait, de mettre en œuvre des réformes beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus logiques, beaucoup plus rationnelles pour un mathématicien, qui vont faire cette exception du Kyrgyzstan en termes économiques, en termes politiques, etc.
Donc vous parlez de libertés publiques qui sont garanties à l'époque dans plusieurs domaines, un pluralisme politique, même si le clientélisme et la corruption persistent pendant des années, dénoncée d'ailleurs par une opposition qui, pour l'instant, perdure.
J'ai compris que les membres de la commission électorale avaient passé un accord avec les politiciens du gouvernement de transition. Ces derniers leur ont offert protection et promis qu'ils conserveraient leur poste. Ce système perdure car les gens du système veulent conserver leurs fonctions. Ils peuvent ainsi diriger et avoir de l'influence. Cela leur permet d'assouvir leurs intérêts personnels, peu importe qui est au sommet du pouvoir.
Donc une opposante au président Japarov qui s'exprime ici au micro de France 24, donc au sein d'un, enfin dans le cadre du fonctionnement d'un régime redevenu présidentiel, néanmoins même quand le système était parlementaire, est-ce que les parlementaires étaient tous des hommes d'affaires? Enfin, comment expliquer que malgré toutes les ouvertures qui ont eu lieu depuis les indépendances, au Kyrgyzstan persiste une corruption, un népotisme, Olivier Ferrando, que n'ont cessé de dénoncer et les ONG qui aujourd'hui sont considérées comme agents de l'étranger par le Kyrgyzstan, mais aussi cette opposition politique kyrgyzstanaise qui existe encore.
Oui, je dirais que la question, en fait, de les libertés publiques et la capacité, finalement, de s'exprimer au Kyrgyzstan, elle a été totale immédiatement. Et c'est pour ça qu'on a souvent dit que le Kyrgyzstan était une exception, c'était la petite Suisse de l'Asie centrale. En revanche, c'était un parfait. Et il existait encore, bien évidemment, des choses qui n'étaient pas régulées, notamment la corruption. Mais la corruption, elle est présente partout en Asie centrale, elle est présente partout dans l'ex-Union soviétique, y compris en Ukraine aujourd'hui. Donc voilà, c'est un sujet douloureux pour une république pauvre. Et donc, ce qui était insupportable probablement, c'est que même s'il y avait une liberté de parole, même s'il y avait une liberté d'entrepreneuriat, même s'il y avait une libéralisation économique, c'était insupportable de voir des leaders qui s'enrichissaient et qui finissaient finalement par s'enrichir. Même Askar Akayev a fini par avoir ce clientélisme, cette corruption très verticale. Ces clans familiaux aussi, hein, parce qu'on a souvent vu les fils, les filles, les frères, les sœurs... Hein, c'était la sœur ou la femme de d'Askar Akayev qui dirigeait le parti politique. Donc voilà, donc c'était vraiment un clan familial qui s'accaparait à la fois le pouvoir politique à la fin par cette concentration, mais aussi les ressources économiques avec tous les systèmes de clientélisme et de corruption.
Et donc qui perdurait, comme disait cette opposante, des journalistes qui ont travaillé sur la corruption, qui ont enquêté sur la corruption au Kyrgyzstan sont aujourd'hui de plus en plus attaqués, emprisonnés, accusés par le pouvoir de collusion en vue de renverser l'ordre constitutionnel ou d'avoir incité à des émeutes. Et de plus en plus également, le président Japarov dit qu'il va limiter la liberté d'expression. C'est le cas par exemple de cette radio que vous allez reconnaître.
Акшнын президенти Дональд Трамп Кытайга кошумча дагы тариф киргизерин билдирди. Ал тапта Евро биримдикте Американын товарларына кошумча тариф киргизүү маселесин талкуулап жатат.
Radio Free Europe, en tout cas sa version kirghize qui s'appelle Azatik, qui l'écoute aujourd'hui, cette radio dont le président Sadir Japarov a dit récemment que oui, Donald Trump avait raison, il fallait sans doute fermer cette radio que personne n'écoute, dit-il.
Mais en fait, le service kirghize donc de Radio Free Europe ne fonctionne plus, il a été interdit, il a été suspendu. En fait, c'était lors du conflit entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan en 2022. Ils ont voulu en fait présenter les deux versions en disant, nous voilà, on est des journalistes, on nous dit que c'est le le Tadjikistan qui a attaqué le Kyrgyzstan. Le Tadjikistan dit l'inverse. Donc on va simplement utiliser notre service tadjik et le service kirghiz. Et ils ont été accusés, en fait, de promouvoir la haine, des choses comme ça, la haine interethnique. Et donc c'est sur cette base-là, en fait, qui était une critique directe du journalisme indépendant, qu'ils ont été fermés. Ce qui reste aujourd'hui, c'est Radio Free Europe, basée à Bishkek, qui propose des programmes, et plus en kirghiz, en fait. Et c'est en russe, hein, les programmes qu'ils proposent aujourd'hui. Mais peu importe, c'est quand même encore... Et ils sont menacés. Mais ils sont aussi menacés par les coupes budgétaires de Trump, puisqu'ils avaient des gros financements de USAID.
Et lui, c'est-à-dire Japarov, dit « Allez-y, coupez, de toute façon, Donald Trump et Elon Musk, vous avez raison, les gens n'ont plus besoin de nouvelles d'Asiatiques, parce qu'il y a encore beaucoup, des millions, enfin 2-3 millions de personnes qui continuent à suivre les nouvelles
écrites,
sur le blog, média, sur ses réseaux sociaux, etc. » Il y a comme ça plusieurs signaux ces derniers temps qui ont donné l'occasion à l'opposition au président Japarov de dire que les libertés publiques sont en train de subir un gros coup de boutoir. Une loi promulguée récemment, considérée comme liberticide contre les religions par l'opposition au président. En quoi, quelle est cette loi du 1er février 2025 dont l'opposition dit qu'elle ne va plus garantir une certaine liberté de culte?
Alors, il y a toute une série de lois qui ont été adoptées, donc celle-là en fait partie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis l'arrivée de Sadir Japarov au pouvoir, il va y avoir ce raidissement, on va dire, du régime, et qui va prendre pour modèle, en fait, la Russie. Et donc, on voit, en fait, se décliner au Kyrgyzstan une série de lois qui existent, en fait, en Russie. Les agents de l'étranger, donc, qui sont rattachés à la loi sur les organisations à but non lucratif. Donc, il y a introduit là-dedans, et il permet, en fait, de lister et de contrôler les financements étrangers qui sont le nerf de la guerre, on le voit bien hein, par rapport à ce que vous disiez, et les financements américains. Mais il y a également la liberté d'expression avec la loi sur les médias qui a directement mis de nouveaux délits dont les médias seraient responsables simplement en tenant un discours libre. On peut voir aussi la liberté d'association, la liberté de manifester. Il y a aussi les libertés sexuelles hein, par rapport aux droits des LGBT. Donc il y a tout ce qu'on voit finalement se durcir en Russie qui apparaît au Kyrgyzstan et de manière assez violente parce que, vous l'avez bien dit, la société civile au Kyrgyzstan, elle a toujours été la plus libre d'Asie centrale. Donc elle a fait une expérience de 30 ans de liberté de parole et d'exercice vraiment d'un contre-pouvoir. Et donc c'est très violent au bout de 30 ans. Hein. 30 ans, c'est l'âge de la moitié de la population. La moitié de la population kirghize a connu en fait cette liberté. Et donc c'est violent.
Une population qui a dénoncé, entre autres, parce que vous le disiez, il y a eu beaucoup de lois qui sont passées ces derniers temps, mais cette loi qui stipule que désormais, pour qu'une communauté religieuse soit reconnue, il faut la signature de 500 membres adultes habitant la même région. Or, apparemment, c'est très compliqué pour chacun de se déclarer, de mettre son nom sur un papier, parce qu'on n'a pas envie d'être identifié par l'administration. D'ailleurs, l'administration et les services de renseignement, parce que ce qu'on n'a pas encore expliqué, Olivier Ferrando, c'est que Sadir Japarov, il forme une sorte de tandem avec son chef des services de renseignement, Kamchi Bektachiev, Takiev, je ne sais pas comment on le prononce. Comment ils se répartissent le travail, peut-être le contrôle de la population?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les services de sécurité ont toujours été associés au pouvoir en Asie centrale. Et puis, à l'époque soviétique, hein, le KGB, ses descendants, c'est quand même Vladimir Poutine. Donc, il y a toujours eu un lien comme ça, organique. En revanche, ce n'était jamais si visible que dans le cas du Kyrgyzstan, où on a vraiment un duo au pouvoir. Aujourd'hui, on le sait très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que Tachiev est le mentor en fait de Japarov, c'est-à-dire que c'est Tachiev qui a créé un parti politique, Atajourt, hein, qui est aujourd'hui qui domine le parlement, dans lequel Japarov a été député quand le président c'était Tachiev pour ce parti politique. Tachiev est un homme très un vrai homme politique. Il a été gouverneur de province, il a été ministre de Bakiev, il a été pré-candidat à la présidentielle en 2011. Donc voilà, c'est quand même lui qui a l'expérience politique et Japarov est un petit député de province. Il faut bien le positionner. Et donc ce duo, il fonctionne vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a un président, élu, et puis mais avec l'appui du numéro 2 qui en fait est son mentor, hein, qui est le responsable des services de sécurité, et ils se partagent vraiment la présence, même la visibilité, le travail. La seule chose qui reste, hein, le seul pouvoir régalien qui reste à Japarov, c'est les relations internationales. Donc c'est lui qu'on voit avec Poutine, c'est lui qu'on voit avec Emmanuel Macron quand il vient en France, et c'est pour ça qu'on le voit visiblement à l'étranger, mais sur le terrain au Kyrgyzstan, c'est vraiment les deux qui sont ensemble.
Et donc, il a un mentor, c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut parler de Vladimir Poutine comme d'un mentor aussi pour le président kirghiz, dont vous dites que les lois qu'il promulgue récemment sont de véritables copies de lois russes? La Russie reste le modèle politique sur lequel s'appuie cette République d'Asie centrale, et les autres?
Oui, vous l'aviez évoqué dans les précédents épisodes, le modèle économique, il est très multivectoriel. Par contre, le modèle politique, lui, il est très monovectoriel. Pour le coup, c'est vraiment la Russie qui est l'exemple à suivre pour toutes les républiques d'Asie centrale, en l'occurrence. Hein. Le Kyrgyzstan avait fait exception avec ce parlementarisme, mais là, il revient à ce modèle-là. Et c'est visible, en fait, par plusieurs éléments. D'abord, il y a, je dirais, le modèle politique, en effet, hein, hyper-présidentiel, avec une concentration du pouvoir, une verticalité, mais il y a aussi la manière dont c'est diffusé, c'est-à-dire que ces régimes, ils se retrouvent entre eux dans des organisations régionales. On a parlé dans les émissions précédentes de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, le Kyrgyzstan en fait partie avec la Russie, l'Union Eurasiatique, le Kyrgyzstan en fait partie avec la Russie, l'Organisation de Coopération de Shanghai, le Kyrgyzstan en fait partie avec la Russie, l'Organisation de Coopération de Shanghai, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est le Bélarus, donc autant dire que dans les discussions, la culture politique qui est échangée, c'est pas des valeurs démocratiques, c'est quand même plutôt de l'autoritarisme, de l'illibéralisme, et donc c'est par ces moyens-là aussi que ça se diffuse et que ça permet de légitimer un pouvoir, de dire, bah, écoutez, moi je fais partie quand même du grand monde, hein, du concert des nations avec la Chine, avec Xi Jinping, avec Poutine, donc ça permet de légitimité d'asseoir le pouvoir.
Permettre d'asseoir une certaine légitimité que ces pouvoirs n'ont peut-être pas ou peut-être plus sur les questions cette fois économiques, est-ce qu'il faut, Olivier Ferrando, imaginer que si quelle que soit l'énergie des sociétés civiles à ne pas s'en laisser imposer, si les pays d'Asie centrale en arrivent toujours là, c'est-à-dire à un moment à resserrer la vis sur les libertés publiques, est-ce qu'on peut faire un lien, d'après vous, est-ce qu'il est pertinent de le faire avec les économies de rente que sont aussi ces pays, des modèles qui reposent essentiellement sur l'exportation de matières premières? Est-ce que l'économie de rente favorise le népotisme? En tout cas, est-ce que vous faites un lien entre le modèle économique de ces États et la tendance qu'ils ont toujours à avoir peur de la légitimité qu'ils ont sur leur population et de leur crédibilité?
Je dirais que là, il faut peut-être distinguer des républiques comme le Kazakhstan et voire même l'Ouzbékistan et bien évidemment le Turkménistan qui ont des richesses économiques, des ressources économiques, du Tadjikistan et du Kyrgyzstan qui ont très peu de ressources économiques. Et donc finalement, la légitimité du pouvoir, elle va être mesurée plus dans les conditions d'acceptation ou de contestation du pouvoir. Et ça passe par le contrat social. Quel contrat social on a finalement au Kazakhstan? C'est très clair, le contrat social, c'est nous sommes une république riche, nous allons partager cette richesse, vous avez la liberté d'entrepreneuriat et vous nous laissez les questions politiques et vous ne vous mêlez pas de politique. Au Tadjikistan, c'est encore une autre option. On a eu une guerre civile, le président est le garant de la paix, et donc le contrat social, c'est le président garantit la paix, et en contrepartie, ben, vous avez un Léviathan, mais c'est pas très grave puisqu'il y a la paix. D'accord? Et au Kyrgyzstan, ben, ça va être un peu aussi cette logique-là de dire qu'est-ce que va accepter finalement la population? Ben, elle n'acceptait pas finalement ces changements-là. Et ça, c'est ça qu'il faut voir, c'est que le contrat social, il avait été rompu. Un contrat social établi par Askar Akayev, c'était, nous n'avons pas de richesse à vous donner, mais par contre, vous avez la liberté d'entrepreneuriat, vous avez la liberté de parole, vous avez la liberté religieuse. Et on revient dessus. Et pour revenir dessus et pour que ça passe, eh ben on doit serrer en fait les boulons. Et donc on retrouve des opposants en prison, des activistes qui fuient. Et ce qui est grave aussi, c'est qu'il y a une répression transnationale. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait fuir en Russie. La Russie faisait rien, on s'en fichait. C'était quand même la destination privilégiée. Et ben maintenant, la Russie renvoie aussi des personnes qui... Voilà.
Et vice-versa d'ailleurs, et pour vice-versa, certains Russes évidemment. Qui vivent aujourd'hui en Asie centrale et qui ont peur d'être renvoyés chez eux. Alors vous le disiez, chaque république d'Asie centrale a son propre contrat social. Les dirigeants ont leur propre contrat social avec leur population, et vous avez évoqué le Kazakhstan dont on a beaucoup dit depuis le début de cette série qu'il avait été traversé de manifestations très violemment réprimées en 2022, c'était suite à la hausse du prix du gaz.
Ils ont dit que les Kazakhs ne descendraient pas dans la rue parce que nous étions devenus si bien éduqués et prudents. Les Kazakhs sont patients, mais nous sommes fatigués, on en a marre. C'est pourquoi vous, les journalistes, vous devez venir ici et être prêts à montrer la vérité telle qu'elle est réellement. Venez, nous avons besoin de vous.
Un manifestant kazakhstanais qui exprimait son mécontentement dans un micro du Parisien en janvier 2022 lors du Candy Kantar, c'est ça? Ça ne veut pas du tout dire ce à quoi ça ressemble, Olivier Ferrando. D'ailleurs, c'est Candy qui veut dire sanglant en kazakh.
Je ne parle pas kazakh. Kazakhstanais,
c'est vrai que c'est très différent.
Par janvier sanglant, mais peut-être que c'est janvier rouge.
Oui, je ne sais pas ce que ça kazakh, veut dire exactement. En tout cas, ce janvier sanglant, on sait combien le président du Kazakhstan a appelé à la rescousse des troupes russes, l'armée russe, pour venir en aide, pour réprimer sa population. Néanmoins, après ces grandes manifestations et après qu'il eut appelé l'armée russe à la rescousse, le président du Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev a anticipé des élections présidentielles et législatives, organisé un référendum sur des amendements à la Constitution. Où est-ce qu'on en est au Kazakhstan sur cette question des libertés publiques et politiques? Est-ce que les événements de janvier 2022 ont fait bouger les choses?
Alors le Kazakhstan n'était pas le modèle, on va dire, ouais, de liberté. L'aspect économique cachait un petit peu finalement le régime politique qui n'était absolument pas libre. Je dirais que 2022, c'est simplement l'aboutissement d'un processus qui a commencé bien auparavant. Le contrat social qui était établi par Nazarbayev, à nouveau, hein, c'était « je vous laisse prospérer » et puis nous on s'occupe de la politique. Et ce qui est arrivé, c'est que ce pays prospère, mais il n'a pas redistribué suffisamment les ressources. Et dès 2009-2010, il y a eu des manifestations pour... Il faut rappeler que le Kazakhstan, à cette époque, au début des années 2010, c'était un PIB par habitant supérieur à la Russie. Supérieur à plein de pays d'Europe, hein. La Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie. Donc ça veut dire que c'est un pays vraiment avec, on pourrait dire, de richesse moyenne. Et il restait beaucoup de populations pauvres. Et donc il y a eu des premières manifestations, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz, hein, donc des employés qui disaient, attendez, nos dirigeants sont riches et nous on n'a rien. Et ensuite, il y a eu la dévaluation en 2014, très importante, qui a fait perdre 50% du pouvoir d'achat à toute la population. Donc là, le contrat social, c'était pas uniquement rompu dans la niche gazière et pétrolière, mais pour toute la population. Et 2022, c'est la goutte d'eau qui a fait exploser cette révolte sociale, qui était le doublement du prix du gaz, parce qu'on a libéralisé le prix du gaz liquéfié de manière totalement amateuriste et ça n'a pas marché. Et cette révolution de palais qui s'est emparée en fait de ce moment de déstabilisation, elle a été reprise en main, elle a été donc arrêtée et reprise en main par Tokayev grâce à l'aide de Poutine, qui voulait surtout pas que Tokayev tombe. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce durcissement encore plus fort. Mais auparavant, je dirais qu'il n'y avait pas vraiment... Il y avait juste la liberté de manifester qui était possible. Et aujourd'hui, en l'occurrence, elle ne l'est plus. On ne peut plus manifester au Kazakhstan comme en Russie. Si on est dans la rue ou qu'on manifeste, on est immédiatement arrêté.
Vous dites que les ressources comme le gaz ont été libéralisées au Kazakhstan. Est-ce que les réformes économiques néolibérales aussi, qui pour certaines se sont imposées en Asie centrale après la chute de l'URSS, ont favorisé le fait que les élites qui prennent le pouvoir s'accaparent un capital? Est-ce que on peut aussi expliquer cette forme d'autoritarisme par ça, par ces réformes néolibérales?
Oui, et je dirais même, si on revient sur le cas du Kyrgyzstan, que Japarov et Tachiev sont arrivés au pouvoir sur cette question-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la prison. Il faut rappeler que ces deux dirigeants, hein, aujourd'hui, ils ont été en prison parce que ils ont osé manifester en 2012, à l'époque où il y avait ce régime parlementariste, donc en 2012, pour en faveur de la nationalisation de la principale mine d'or, hein, donc qui est la principale richesse, on va dire, en ressources du Kyrgyzstan aujourd'hui, hein, une mine d'or, pour sa nationalisation, parce qu'ils estimaient que du coup, si c'était l'État qui la gérait, c'était mieux. Mais on comprend bien pourquoi. Parce que ça permet d'avoir des ressources aussi qu'on peut utiliser nous-mêmes. Alors que là, c'était une compagnie, une joint venture, en fait, avec une compagnie canadienne qui le faisait. Donc on voit que l'enjeu des ressources, même pour le Kyrgyzstan, est central pour comment on va affirmer son pouvoir. Alors vis-à-vis de la population, on va défendre l'intérêt national. Mais pour soi-même, c'est aussi pour pouvoir avoir finalement accès directement par la machine administrative, avoir accès à ses ressources.
Ça rejoint totalement une série qu'on a consacrée il n'y a pas très longtemps aux ressources minières et à des États qui appliquent une souveraineté sur leurs ressources, retrouvent le contrôle de leurs ressources, mais ensuite pour en faire quoi? C'est toute la question qui se pose ensuite, donc elle se pose aussi au Kyrgyzstan. Peut-être pour faire un tout petit tour d'horizon, on dit de l'Ouzbékistan qu'il s'ouvre un peu depuis l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev en 2016. En quoi est-ce qu'il s'ouvrirait, Olivier Ferrando?
Alors, ouverture, je dirais plutôt un rattrapage, parce qu'il y a eu 25 ans d'un pays qui était très fermé, en fait. Le régime d'Islam Karimov, donc premier président, entre 91 et 2016, a été un régime autarcique, fermé, étatique, centralisé, dans lequel l'Ouzbékistan était vraiment le mauvais élève de l'Asie centrale, il faut le dire comme ça. Et en fait, en 2016, lorsqu'il décède, c'est son premier ministre qui arrive au pouvoir, Shavkat Mirziyoyev. On s'attendait à une continuité, et cette continuité, elle va nous surprendre, parce qu'elle n'aura pas lieu. En tout cas, pas de point de vue économique, puisqu'il va y avoir des réformes assez courageuses qui vont être mises en place, d'ouverture économique, de libéralisation de la monnaie, etc. Et donc, on va vraiment voir un boom économique en Ouzbékistan avec des financements étrangers qui vont arriver également, hein, des investissements étrangers. Donc voilà, en tout cas, c'est ça qu'on observe et on porte souvent en avant les nouveaux accords signés par des compagnies étrangères, y compris des Françaises. Hein. Mais ce qu'on voit moins, c'est qu'en matière politique, les avancées sont beaucoup moins importantes. Il y en a quelques-unes, je les mentionne parce qu'on les évoque souvent, notamment le droit des femmes, c'est l'Ouzbékistan qui a été le premier pays d'Asie centrale à criminaliser les violences domestiques, qui ont d'ailleurs été décriminalisées en Russie en 2017. Hein, donc on voit très bien le chemin inverse. Les droits de l'enfant, il y avait aussi l'usage des enfants dans les champs de coton pendant très longtemps, avec une campagne internationale qui s'opposait à ça. Donc là, ça a été également régulé. Mais en dehors de ces mesures qui sont importantes, eh ben on voit que finalement, il n'y a pas vraiment de libéralisation de la vie politique. Voilà, la vie politique en tout cas, avec absence de pluralisme, les médias qui ne sont pas libres, la société civile qui est très contrôlée.
Donc quand on dit que, ou qu'on se réjouit que l'Ouzbékistan se serait ouvert depuis quelques années, est-ce que c'est l'Union européenne par exemple qui le dit parce que le pays a supprimé les visas pour les ressortissants européens? Ça suffit ensuite à donner un argument pour dire, ah ben c'est bien, il s'ouvre. Mais en fait, il s'ouvre aux ressortissants européens, mais peut-être un peu moins pour la population sur place.
Alors, en l'occurrence, pour les visas, ce qui est intéressant, c'est que oui, ils se sont ouverts aux Européens, mais dans l'autre sens, ils ont aussi annulé, Mirziyoyev a annulé les visas de sortie pour les Ouzbeks. Auparavant, les Ouzbeks devaient passer par une administration pour pouvoir quitter le pays. C'est plus le cas. Donc, c'est des éléments qui ont quand même montré qu'il y a des changements. Moi, je parlais plutôt de la vie politique, du régime politique.
En tout cas, les Ouzbeks ont le droit, même si c'est compliqué, de sortir de leur territoire, ce qui n'est pas le cas au Turkménistan. Même quand on a un cas d'urgence médicale, on ne peut pas sortir du Turkménistan. C'est toujours un trou noir, le Turkménistan, sur la carte de l'Asie centrale et sur la carte du monde tout court, un de ces pays dont on parle beaucoup moins que la Corée du Nord, mais qui néanmoins n'est pas plus accessible qu'elle.
Bah oui, et c'est un trou noir aussi pour nous, parce que moi j'y ai pas accès, j'y suis jamais allé, on m'a toujours refusé mes visas, donc je peux pas beaucoup vous en parler de l'intérieur, mais en tout cas oui, c'est cette image que l'on a d'un pays qui n'est pas accessible et où la population est totalement isolée. Oui.
On a une idée de à quoi ça ressemble, le Turkménistan? Il y a quand même des photos qui circulent, des images satellites sans doute, mais des photos récentes de personnes qui arrivent à y aller?
Du tourisme, on peut faire du tourisme au Turkménistan.
Ah, on peut quand même,
avec des visas touristiques. Oui, à part que j'ai fait des demandes de visas touristiques et ils ont bien vu, ça a été refusé.
On ne la leur fait pas.
C'est exactement.
Ça. Peut-être une question un peu plus générale sur les questions, sur la question religieuse qu'on a abordée aussi un peu tout au long de cette série, et notamment quand il s'est agi de parler du Tadjikistan, dont le pouvoir a depuis 2015 interdit une opposition islamiste de faire partie du jeu politique. Sur est-ce que tous les régimes centra-asiatiques aujourd'hui imposent un contrôle politique sur les religions?
Oui, c'est ça en fait. C'est l'héritage, je dirais, de la laïcité de l'Union soviétique. L'Union soviétique était un régime dans lequel les religions, à un moment, elles étaient totalement... on luttait contre, c'était Staline, mais après ça a été oublié. Et à la fin, les 30 dernières années, on avait quand même des religions qui étaient reconnues. Mais quand on dit religion reconnue, ça veut dire religion contrôlée. Et donc la laïcité en Asie centrale, dans les 5 républiques, on a des républiques laïques, l'islam n'a absolument aucun statut, c'est la neutralité de l'État, et ça c'est commun à la France. On retrouve en Asie centrale l'interdiction du port du voile à l'école, la neutralité des agents administratifs, etc. Mais la différence avec la laïcité à la française, c'est que on ne reconnaît pas en France des religions, là-bas on les reconnaît, on les contrôle, on les finance, on contrôle les discours qui sont prononcés dans les églises et dans les mosquées, les pèlerinages à la Mecque sont contrôlés, donc en fait on a vraiment une population sous contrôle. Et à partir du moment où on ne respecte pas les cultes officiels, on va être tout de suite catalogué comme potentiellement islamiste ou terroriste ou de manière assez violente. Puisqu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, les prisons d'Asie centrale, c'est essentiellement des prisonniers de conscience.
Des prisonniers de conscience, donc pour leur... pour la religion ou la conscience qu'ils ont osé exprimer ou le culte qu'ils ont voulu suivre. Au Tadjikistan, c'est tout récent, une mesure a été prise pour que personne ne puisse porter ni des hijabs, ni des mini-jupes. Voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut respecter le port des vêtements nationaux. On a beaucoup de vêtements beaucoup plus colorés, des vêtements traditionnels, dit le président. Donc il faut se mettre au goût du jour, dit-il. Vous évoquez l'Ouzbékistan comme ayant été le premier à criminaliser les violences faites contre les femmes. C'est le Kazakhstan est en train de suivre un petit peu cette voie. On en parlera juste après ce groupe de Bishkek, Zamanbap. Yerde dör ölgüm deyip ölüm ardayım. Dört mezgül
kızcağız cayıp. Dayım elim din Allah'tan icayıp. Yaratkanın buyruza biri varı vızganan çayım. Men işin gen adamlar baralar mağa işenin. Bir maksatlı gözdesök boşan oğuz kişinden. Biyit uçup bükküt sımal ala toğunun üstünde. Kırgızstan'ın muhtaç saldım koşkonlar bir kişiye. Bu çığarma meniki, menin nene kendiki. Bu karmandıkı seniki. Bizge kırgız bir sabahın bir gün necek meniki. Sözüm menin ne kendimdiki. Sözüm menin nene kendiki. Bulca şonluk bu seniki. Sağa kırgız bir sabahın bir gün necek meniki. Sözüm kımbat kırgız eldiki. Derim din canı menin bara bar cerge. İlgeri ata babalar ız gelge. Ulutum sülösün de beni dil bergen. Urpağı saktasın dep mene dinlarmağa. Söz baylıktı balağa, kum görüntü arada. Cel burgap, çam kırtıp, büdale kırgız degen barada. Ey, yaşayt mekin alanda. Mende erkin barata. Bu çığarma meniki, menin nene kendiki. Bu karmandıkı seniki.
Alors ce groupe s'appelle Zaman Bap et il chantait en 2015 cette chanson Enetil qui veut dire langue maternelle. C'est une ode à la langue kirghize. Notre mentalité, explique le chanteur de ce groupe, ne se base pas sur la fumette ou l'alcool. On écrit nos morceaux différemment de ce qui se fait en Amérique ou dans d'autres pays. C'est notre rap kirghize, dit-il, le Kirghizistan vers la fin d'une exception démocratique. Ça n'a pas de rapport avec la chanson, mais c'est le thème de cette troisième émission d'une série consacrée à l'Asie centrale avec notre invité Olivier Ferrando, qui nous rappelait le dynamisme malgré tout des sociétés dans des pays relativement verrouillés. Elles se mobilisent sur des sujets de société, comme depuis récemment au Kazakhstan, les féminicides et les violences faites aux femmes.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Суд приговорил Бишимбаева Куандыкова Лихановича признать виновным, окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы.
Une juge du Kazakhstan prononçait il y a un an une peine de 24 ans de prison contre M. Bishimbaev, l'ancien ministre de l'économie qui a tué 6 mois auparavant son épouse Saltanat Nenukhenova lors d'un dîner dans un restaurant de la capitale Astana. Très rapidement et largement médiatisé, ce meurtre a provoqué l'adoption d'une loi contre les violences domestiques. Bonjour Elmira Pirmanova.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 2. D'abord, si on a pu entendre et donner à entendre aux auditeurs ce verdict de la juge, c'est parce que le procès a été diffusé en direct, en ligne. C'est une pratique courante de la justice au Kazakhstan.
Justement, en effet, c'était la première fois, pour la toute première fois, qu'un procès de telle envergure qui était diffusé en accès libre sur Internet. Du coup, c'était vraiment pour la première fois. C'est pour ça que ça a provoqué vraiment un intérêt et beaucoup de discussions des citoyens, et pas que des citoyens, des médias, des discussions sur les réseaux. C'est parce que c'était vraiment pour la première fois qu'un procès de telle envergure était diffusé en ligne.
C'était peut-être aussi côté officiel, entre guillemets, côté du pouvoir du Kazakhstan, l'idée de montrer une certaine transparence alors que l'accusé était un ancien ministre, Kuandik Bishimbaev. Qui est-il exactement ministre pendant 6 mois en 2016? Est-ce qu'il occupait encore des fonctions politiques importantes au moment du crime dont il s'est rendu coupable sur son épouse?
Justement, c'était un ancien ministre de l'économie, donc qui avait occupé le poste en 2016. Et justement, c'est le statut de Kuandik Bishimbaev qui a attiré l'attention, parce que c'est la première fois, parce qu'avant, en effet, officiellement, on n'accusait pas directement, on faisait pas des procès comme ça contre les élites, on va dire, parce que lui, il était considéré en tant qu'élite politique. Et voilà, c'est pour ça ça a attiré vraiment beaucoup d'attention et beaucoup de discussions.
Considéré comme une élite, même s'il a été arrêté pour détournement de fonds en 2017, condamné à 10 ans de prison en 2018, remis en liberté conditionnelle un an plus tard pour comportement exemplaire, entre guillemets, jusqu'à ce dîner donc du 8 novembre 2023 avec celle qui est devenue à l'époque son ex-femme dans un restaurant d'Astana. La dispute dégénère et vous racontez dans un article pour The Conversation qu'au lieu d'appeler une ambulance, quand il comprend que sa femme est inconsciente, il téléphone à une voyante qui lui dit que tout ira bien. La jeune femme de 32 ans meurt quelques heures plus tard d'un traumatisme crânien. Comment la défense et l'accusation se sont répondues l'une à l'autre pendant ce procès? Sur quels arguments?
Bah justement, ce qui était intéressant d'observer, c'est la ligne de défense des avocats de Kouandik Bishimbaev et de lui-même, parce que vu que c'était diffusé en ligne, du coup, on pouvait écouter son discours. Et bah en fait, la ligne de défense, c'était de construire une image négative de Saltanat Nikinova, en disant que bah c'est elle qui a provoqué, c'est de sa faute, que c'est elle qui n'était pas émotionnellement stable, et donc c'est en gros en quelque sorte c'est de sa faute que lui il l'a tué, et en plus lui il l'aimait beaucoup, c'est justement c'est elle qui trompait, qui voilà. Donc du coup la ligne de défense c'était ça, et en plus avec son éloquence, parce que le procès a commencé d'abord par son discours avant de présenter les preuves, qui étaient des preuves très accablantes, qui le montrent en train de porter des coups d'une violence inouïe. Mmh. Et du coup voilà, la ligne de défense c'était ça, c'était vraiment de présenter la victime, de présenter sa femme en tant que voilà émotionnellement instable, que c'est elle qui avait provoqué.
Qui a provoqué la dispute. Alors, pardon, Elmira Pirmanova, en effet, au départ, ce ministre a eu largement de quoi se défendre jusqu'à sa condamnation à 24 ans de prison. Dans quelle mesure les mobilisations citoyennes ont joué, et sous quelle forme ces mobilisations, et en quels termes? Est-ce que vous avez constaté que ces mobilisations faisaient référence aussi à d'autres mouvements dans le reste du monde, au mouvement MeToo, où ce débat est resté très circonscrit dans le contexte du Kazakhstan et un débat mis sur le devant de la scène, mais vraiment par des gens qui parlent du Kazakhstan et non pas de la façon dont les femmes dans le monde doivent être traitées.
Oui. En fait, ce qui est intéressant avec ce cas, c'est que justement, ça a provoqué une mobilisation citoyenne sans précédent, parce que avant, c'est pas le premier cas des violences domestiques, des violences conjugales au Kazakhstan, mais vraiment, c'est ce cas-là qui a provoqué vraiment une large mobilisation citoyenne et féminine des femmes. Ça a délayé les langues. En fait, il y avait des femmes qui ont commencé à partager leurs histoires, parce qu'avant les violences domestiques étaient considérées comme l'affaire privée, comme l'affaire de la famille, et c'est pour ça justement la pression des mouvements des femmes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements féministes ou des mouvements des femmes, des mouvements pour les droits des femmes qui existent, et c'est pour ça justement la mobilisation des femmes, pas que des femmes, la mobilisation des citoyens en général kazakhs a mis la pression sur la justice pour rendre le verdict que la peine soit juste prononcée à Kouandik Bishimbaev, mais aussi par rapport à l'adoption de la loi, parce qu'en 2017, comme vous avez dit précédemment, le Kazakhstan a dépénalisé les violences domestiques, et justement après le meurtre de Saltanat, il y avait une loi qui était adoptée en avril 2024 et qui pas officiellement porte le nom du loi Saltanat, qui a renforcé justement les peines par rapport aux violences faites aux femmes.
Donc on parle d'un pays, le Kazakhstan, où 400 féminicides ont été recensés dans un pays de 20 millions d'habitants en 2020 par exemple, et de nombreux autres depuis. On estime que 17 à 20% des femmes subissent des violences physiques de la part de leurs partenaires, pour commencer. Donc cette loi qui a été adoptée en avril 2024, elle prévoit des sanctions sévères pour les cas de préjudice à la santé des femmes, la réclusion à perpétuité pour les meurtres, viols et actes de violence sexuelle contre des mineurs, des sanctions pour les attouchements sexuels envers les adolescents de moins de 16 ans et pour l'incitation au suicide. Et elle met en place des mécanismes pour une réponse rapide aux cas de violences domestiques. Est-ce que les organisations, peut-être pour conclure, et Elmira Pirmanova, est-ce que les organisations et associations qui s'engagent dans la défense des droits des femmes sont libres de leurs paroles, de leurs actions, et surtout depuis la promulgation de cette loi?
C'est vrai que depuis la promulgation de la loi, les organisations, les associations ont plus de liberté de parler, de mettre au large public ces problématiques de violences faites aux femmes, même s'il y a quand même progrès à faire. Mais c'est vrai que ce meurtre, bon, malheureusement, il fallait attendre le meurtre d'une femme, mais ça quand même, on peut parler du progrès, de l'ouverture, d'une certaine liberté qu'on peut, on peut parler, on peut diffuser, on peut parler à travers les réseaux, à travers les médias, à travers, donc oui, maintenant les associations, ils ont en plus de liberté de parole et peuvent parler plus librement des violences justement faites aux femmes et de faire sortir ce sujet du domaine privé, familial, à domaine public et domaine politique et social.
Merci beaucoup. Et c'est comme ça aussi qu'un acteur très connu au Kazakhstan a récemment été accusé d'avoir été violent à l'encontre de sa compagne et que des entreprises ont rompu leur contrat, leur partenariat avec lui, qu'il a été cancelled, comme on le dit aussi au Kazakhstan. Merci beaucoup Elmira Pirmanova d'avoir été avec nous. Peut-être Olivier Ferrando, un tout petit mot là-dessus, parce que vous nous disiez que l'Ouzbékistan avait été plutôt pionnier en la matière. Est-ce que d'autres pays d'Asie centrale vont suivre d'après vous cette direction-là, d'être beaucoup plus intransigeant et intransigeant tout court?
En tout cas, je ne le vois pas dans les autres pays actuellement. Non. Ouzbékistan, Kazakhstan sont vraiment en avant, Kyrgyzstan et Tadjikistan.
Pour conclure, Olivier Ferrando, cette discussion sur la plus ou moins ouverture des pays d'Asie centrale, comment la guerre en Ukraine a contribué à refaçonner peut-être les discours, repositionner les chefs d'État aussi par rapport à leur population, leur société?
Alors, ce qui est intéressant peut-être sur la guerre en Ukraine, c'est que la rhétorique officielle de Vladimir Poutine pour justifier cette guerre, elle n'est pas toujours acceptée, mais il y en a une qui est très bien acceptée, c'est la guerre contre l'Occident collectif. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bon moyen de rejeter tout ce qui peut gêner la consolidation du pouvoir, donc bien évidemment toutes les valeurs démocratiques promues par l'Occident, mais en incluant la question de valeurs qui sont contraires à la famille, à la morale publique, vous voyez où je veux en venir, toujours les homosexuels, les LGBT, ou bien dénoncer l'agenda caché de l'Occident qui agirait en finançant des médias, des ONG, et donc ça justifie la promulgation de lois contre les agents de l'étranger. Donc quelque part, oui, ça permet finalement de renforcer l'acceptation par la population de ces lois qui sont liberticides, mais qui sont justifiées par rapport à une guerre contre l'Occident que mène Vladimir Poutine, finalement.
C'est presque insensé, alors, d'entendre que dans ces États qui continuent à dire que toutes les valeurs de plus grande liberté sont occidentales et doivent être mises au rebut, eh bien, on commence vraiment à parler des violences faites aux femmes et qu'on ne dit pas que c'est encore une idée occidentale qui arrive dans la tête des femmes d'Asie centrale.
Parce que 50% des femmes, de la population, ouais, ce sont des femmes, donc c'est important. Et puis on a aussi cet héritage soviétique où les femmes, on est dans une culture musulmane, certes, mais en fait les femmes ont connu une grande liberté, elles travaillent, elles sont éduquées. Donc je pense que c'était un sujet qu'il fallait saisir, et c'est peut-être le moins dangereux, finalement.
Pour les politiques, et tant mieux pour les femmes. Merci beaucoup Olivier Ferrando d'avoir été avec nous, maître de conférence en sciences politiques de l'Université catholique de Lyon. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Petra, c'est sur la question minoritaire en Asie centrale, construction nationale, mobilisation ethnique et stratégie identitaire dans la vallée du Fergana. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Revue de presse internationale en Birmanie, Catherine, où la junte est accusée d'entraver les secours après le séisme dévastateur du 28 mars.
Au moins 3600 morts, rapporte The Irrawaddy, journal birman en exil, mais le bilan réel pourrait bien être beaucoup plus élevé que les chiffres avancés par la junte, ajoute Irrawaddy, peut-être 10 000 morts. Ce qui est sûr, c'est que la région de Mandalay et sa ville d'1,5 million d'habitants dans le centre de la Birmanie a enregistré le plus grand nombre de victimes à cause de sa proximité avec l'épicentre du puissant séisme de magnitude 7,7, Naypyidaw, la capitale birmane, le centre névralgique stratégique de la junte au pouvoir a également été dévastée, tout comme la région de Sagaing dans le nord-ouest. C'est là que 3 personnes âgées ont été tuées, 2 femmes blessées également dimanche, dans des bombardements de la junte sur un village, rapporte encore The Irrawaddy, et ce malgré un cessez-le-feu décrété par le régime jusqu'au 22 avril pour faciliter normalement les opérations de secours, rappelle CNN. Un bébé de 3 mois et un enfant de 10 ans ont également été tués dans le sud-est, dans l'état Karen, écrit le journal birman en exil, The Irrawaddy. L'armée a également tiré sur un convoi de la Croix-Rouge chinoise, rapporte Nikkei Asia. Aujourd'hui, les civils déplacés par le séisme sont contraints de se mettre à l'abri des bombes, souligne Radio Free Asia, qui précise au passage, en une de son site, qu'elle fonctionne désormais avec des effectifs réduits depuis la mi-mars, depuis la fin du financement annoncé par l'administration Trump.
On n'en est pas au Turkménistan comme on en parlait tout à l'heure, mais reste qu'il est difficile de savoir ce qui se passe au quotidien dans ce pays verrouillé par la junte.
Les combats se poursuivent, confirme en tout cas la BBC et l'ONU, qui recensent une 15aine d'attaques depuis le cessez-le-feu de vendredi. La junte et les insurgés s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve, explique Radio Free Asia, alors que des milliers de logements ont été détruits par le tremblement de terre, des bâtiments éventrés à Naipido et Mandalay, comme le montre le média birman Nizima News, ainsi que Nikkei Asia. Des milliers de Birmans dorment aujourd'hui dans la rue. Les répliques du séisme, les pluies aussi qui sont tombées ce week-end, ajoute la BBC, entrave les efforts des secouristes. Des pluies à venir encore, prévient la chaîne télévisée birmane MRTV, qui tient à montrer dans un autre reportage que l'aide est bel et bien distribuée. Du riz et des aliments de base ont été livrés par camion à Naipido, explique la présentatrice du JT de la chaîne birmane MRTV. Du carburant et d'autres produits tels que le sel sont vendus à des prix raisonnables, et ce, une dizaine de jours après le séisme, dit-elle encore. Sauf que ce reportage télévisé ne montre en fait que 2 photos de distribution de colis, 2 images qui tournent en boucle pendant 1 minute. Une partie de l'aide, la majeure partie, n'a pas été distribuée aux personnes qui en ont besoin. Dans certaines zones, elle a été confisquée par la junte, accuse une médecin birmane dans les colonnes du Guardian. Si des secouristes, par exemple, veulent entrer dans la région de Sagaing, dans le nord-ouest, je le rappelle, de la Birmanie, les autorités ne les laissent pas entrer. Ils vous disent qu'il faut un permis, explique encore cette birmane au Guardian. Et pourtant, le chef de l'action humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, cité par la BBC, insiste, les Birmans manquent de tout, de nourriture, d'eau, d'abri, d'électricité, dans un pays où les besoins étaient déjà énormes, ajoute-t-il sur la BBC.
La Birmanie, sous le coup de sanctions occidentales, a vu son économie s'effondrer après le putsch de 2020, T1, puis la guerre civile.
La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays de 51 millions d'habitants, déjà ébranlé aussi par le passage du typhon Yagi. C'était en septembre dernier, nous en avions parlé ici même. Parmi les premiers pays à avoir envoyé des équipes de secours internationales après le séisme, cette fois de fin mars, la Russie et la Chine, les plus proches alliés de la junte, explique The Irrawaddy, pour qui la Birmanie est aussi une terre de rivalité. Pour ne pas contrarier les Chinois, les secouristes taïwanais ont été priés de ne pas venir en Birmanie. Des équipes venues d'Inde, en revanche, de Thaïlande, de Singapour et du Japon se sont portées au secours des Birmans. Et le quotidien singapourien The Straits Times ainsi que le South China Morning Post s'intéressent, eux, à des cafards cyborgs, des cafards équipés de sortes de sacs à dos contenant des caméras infrarouges, des capteurs pour détecter les signatures thermiques humaines et donc pour retrouver des survivants sous les décombres. De son côté, The Irrawaddy souligne la contribution bien tardive des États-Unis, qui avait déjà démantelé l'USAID, l'agence états-unienne pour le développement international, ce qui pénalise les organisations de la société civile birmane. L'aide humanitaire, quelle qu'elle soit, n'est généralement pas à l'ordre du jour de Donald Trump, déplore The Irrawaddy. Aujourd'hui, l'industrie textile en Birmanie demande un peu d'indulgence à Washington, après que Donald Trump a imposé 44% de droits de douane sur le pays. Un désastre, selon le Guardian, 1,5 million de Birmans et de Birmanes surtout travaillent dans cette industrie textile. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU se dit, lui, contraint de supprimer son aide à plus d'un million de Birmans à cause de la fin des subventions américaines, note le quotidien indien The Hindu, ainsi que les agences de presse AP et Reuters. Même phénomène en Syrie, en Afghanistan, au Yémen, en Somalie ou encore au Zimbabwe. La liste est longue pour le PAM, cité par l'agence AP. Ce n'est ni plus ni moins qu'une condamnation à mort.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.